Voilà, eh bien, chers amis, nous allons méditer la Sainte Parole de Dieu. C'est quelque chose que nous faisons souvent. Je me suis quelquefois demandé si nous n'avions pas, peut-être, dans nos églises, trop de messages. Je me suis demandé souvent. Je me suis dit, est-ce que nous ne sommes pas peut-être trop gavés? Le mot n'est peut-être pas joli, mais vous comprenez ce que ça veut dire. Trop nourris, peut-être. C'est mieux. De la prédication. J'ai questionné le Seigneur à ce sujet. Lui dire, mais il ne faudrait pas que nous fassions de la prédication, peut-être, un excès. Il y a peut-être plus de place, il y aurait peut-être avantage à donner plus de place à la prière, à la louange, à l'adoration, à l'action de grâce. Et effectivement, j'ai connu des cultes, je pense que je ne suis pas le seul, connu des cultes de dimanche sans prédication. Ce ne sont pas les plus mauvais, vous savez. Sans prédication, mais en faisant jouer les dispositions du chapitre 14 de la première épître aux Corinthiens, dans une réunion pastorale qui n'est pas très ancienne, puisqu'elle remonte au 20 février dernier, l'un de nos frères, ça se tenait à Nîmes, l'un de nos frères, et c'était précisément le pasteur de Nîmes, M. Cosnard, et qui, là, s'est senti un peu alerté par le Saint-Esprit, et qui nous a dit, mais dans le chapitre 14, il y a des choses que nous n'appliquons pas. Vous voyez à quoi je fais allusion. Ce chapitre qui nous dit, quand vous vous réunissez, n'est-ce pas, voilà les choses que vous faites. Et là, il est prévu que spontanément, peut-être, un frère peut avoir une instruction, indépendamment de ce que nous appelons couramment le don spirituel, langue, interprétation de langue, prophétie, peut y avoir aussi une instruction. Alors, bon, c'est pas ce que je veux vous proposer ce soir particulièrement, mais si je me suis posé cette question, et si je l'ai posée au Seigneur, de savoir si nous ne donnions pas trop de place à la prédication, c'est parce que j'ai remarqué, alors là je vais vous dire quelque chose de désagréable, mais nous devons être sincères entre nous, n'est-ce pas? J'ai remarqué que après des prédications, pourtant des prédications qui avaient leur valeur, eh bien, beaucoup d'auditeurs, de chrétiens auditeurs, oubliaient. J'ai remarqué qu'à la fin d'un culte, par exemple, eh bien, on se congratule, on se dit toutes sortes de choses, et on parle de toutes sortes de choses, excepté de ce qui a été dit dans le culte. Et ça, je me suis placé quelquefois à la sortie d'une réunion pour voir ce qui se passait. J'ai espionné peut-être un petit peu. Et je me suis aperçu de cela avec beaucoup de tristesse. Alors voyez, c'est pas un reproche qui vous est particulier. C'est un reproche, je crois, que nous pouvons nous faire à nous tous, milieu évangélique, assemblée de Dieu, corps de Christ. Alors il faudrait que, je pense, nous méditions la parole avec celui qui fait la prédication ou l'instruction, parce que la prédication n'est pas toujours sur le même mode. Il peut y avoir dans la prédication l'exhortation, il peut y avoir l'annonce du royaume de Dieu, il peut y avoir l'exhortation, oui, il peut y avoir l'enseignement, et il y a différentes formes d'enseignement. Donc la prédication elle-même a des aspects assez variés, mais il faudrait que toujours les chrétiens puissent méditer avec celui qui a la charge de prêcher et qu'ils n'oublient surtout pas ensuite ce qu'ils ont reçu dans leur cœur par le moyen de la prédication et par la grâce de Dieu, par l'action du Saint-Esprit en eux. Et nous allons faire ce soir quelque chose de très simple, très simple. J'espère que vous serez de mon avis, ce sera simple. Mais je ne vous garantis pas que ça le sera aussi demain et les jours suivants. Nous aborderons peut-être des sujets difficiles. Mais ce soir, à l'issue de cette journée où vous vous êtes bien promené, moi aussi, alors n'allons pas nous compliquer la tâche, mais nous voulons quand même, considérer la parole de Dieu pour que nos cœurs en reçoivent du bien. La parole de Dieu, vous savez ce qu'elle est, la parole de Dieu. La parole écrite qui devient la parole parlée, qui devient la parole vivante. Il y a relation entre les phrases, les mots qui sont ici dans notre Bible et qui sont la forme écrite de la parole de Dieu et ce que Pierre appelle la parole vivante de Dieu et qui est le Seigneur. Le Seigneur. Eh bien, il y a relation, chers amis. Nous aurons peut-être l'occasion de revenir sur ce sujet-là. Il y a relation. Elle est inspirée, cette parole écrite. Elle est inspirée. Et quand on la consulte en la méditant, car c'est le moyen de puiser, eh bien, le Saint-Esprit qui a inspiré les rédacteurs de la Bible est là, et toujours là, pour nous montrer, pour nous dire, pour nous développer toute la richesse spirituelle de la parole. Et la richesse de la parole est fantastique. Fantastique. Mais de tout sens, sachons ceci, c'est que la parole de Dieu est le véhicule choisi par Dieu et l'unique véhicule, l'unique, mes amis, il n'a pas choisi l'image. Dieu n'a pas choisi l'image. Et ce n'est pas mon avis seul. Cela résulte de l'exégèse de la Bible et cela est exprimé par des auteurs qui ont peut-être plus d'autorité que moi. Eh bien, la Bible est le véhicule de la vie. Le véhicule de la vie. Mes amis, quand nous prononçons la parole de Dieu, et vous savez, la prononcer, c'est quelque chose qui ne se fait pas sans le Saint-Esprit. Paul nous dit bien que de dire simplement Jésus-Christ est le Seigneur, cela ne peut pas se faire sans le Saint-Esprit. Hein? Eh bien, la parole de Dieu est le véhicule de la vie, chers amis. Le véhicule. L'image ne l'est pas. L'image ne l'est pas. Je ne suis pas en train de combattre quelque chose, là. Je dis simplement une vérité. L'image n'est pas le véhicule choisi par Dieu pour la vie. La vie, Dieu en a confié la puissance communicative à sa parole. À sa parole, à lui. Alors, nous allons méditer quelque chose qui a été prononcé par le Seigneur Jésus. Notre frère, à l'instant, il en a cité un peu, il y a fait allusion. Ce qui est extraordinaire, c'est de constater que le Seigneur Jésus enseignait, avec des éléments si faibles. Entendons-nous, pas faibles pour leur puissance d'expression, c'est pas ce que je veux dire, mais faibles parce qu'il les choisissait dans le cadre de notre vie, le cadre terrestre, et il n'allait pas chercher des grandes choses, il allait chercher la fleurette des champs, le lys, le coquelicot, a-t-on dit quelquefois. Il allait chercher ça. Il allait chercher les passereaux, les petits oiseaux. Il n'allait pas chercher des choses. Enfin, si, quelquefois, il est allé chercher de grandes choses. Mais il nous a enseigné avec ses petits éléments. Ses petits éléments, lui-même l'a dit. Vous valez bien plus que les passereaux, que les petits moineaux. Pourquoi vous valez plus que les petits moineaux? Parce que les petits moineaux, ils ne connaissent pas leur Père céleste, leur Père, je veux dire leur Créateur, dans le sens de Créateur, ils ne connaissent pas leur Créateur. Tandis que nous, il nous a été donné de connaître le Créateur, de le connaître et de le connaître comme un Père. C'est pour ça que nous valons bien plus que les petits oiseaux. Alors, nous allons lire ce passage du chapitre 6 de Matthieu, dont notre frère tout à l'heure faisait allusion. Nous allons lire simplement dans le chapitre 6 de Matthieu, du verset 24 au verset 34. Du verset 24 au verset 34. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de ce quoi vous serez vêtu, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée, 50 centimètres environ, à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Eh bien, voilà quelque chose d'extraordinaire. On pourrait penser que le Seigneur Jésus faisait l'école du mercredi à des enfants, la classe des 11-12 ans. Eh bien non, c'est à des enfants qu'il parle, mais c'est à des grands-enfants, comme nous, hein, des grandes personnes qu'il veut, d'ailleurs, voir et trouver comme des petits-enfants. Il ne veut pas que nous soyons des adultes, dans le sens que l'on donne à ce terme pour désigner la personnalité humaine qui se rengorge, qui est sûre d'elle. Il ne veut pas que nous soyons des gens sûrs de nous. Si vous ne devenez comme des petits-enfants, si vous ne devenez, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. La porte du royaume des cieux pourrait se fermer, mais vous pourrez dire, enfin Seigneur, je suis né de nouveau, j'ai été baptisé, Seigneur, souviens-toi, je me suis converti. Oui, mais si maintenant tu n'es pas devenu comme un petit enfant, si tu ne prends pas garde à être toi comme un petit enfant, tu n'auras pas de part avec moi. C'est ce que Jésus a dit à Pierre lui-même, pour une autre raison. Tu n'auras pas de part avec moi si je ne te lave pas les pieds. Si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part. Tu n'entreras pas dans le royaume. Le royaume de Dieu peut se fermer. Il peut se fermer pour une cause, une raison, qui peut-être nous échappe, nous paraît légère. Pierre voulait pas qu'on lui lave les pieds. Ce sont son Seigneur. Vous savez, personne ne lui avait jamais lavé les pieds à Pierre. Il se les lavait peut-être pas très souvent lui-même, parce que il était toujours dans la barque, dans l'eau. Il avait souvent les pieds nus. Mais voilà, le premier qui va lui proposer de lui laver les pieds, c'est son Seigneur. Ah non, Seigneur, non. Ah ça, tu ne me laveras pas. Et ça contenait ceci, si mes compagnons, eux, te laissent faire, mais moi, non, oh, mon Seigneur, me laver les pieds, jamais. Et le Seigneur de lui dire, Pierre, si je ne te lave, tu n'auras pas de part avec moi. Oh, alors si c'est ça, Seigneur, mais lave-moi le corps tout entier, alors. Vous voyez l'excès, vous voyez la nature humaine, n'est-ce pas ? Qui ne sait pas comprendre, saisir la parole de Dieu, la parole de son Seigneur, le corps tout entier, résonnait toujours en homme à ce moment-là. Plus tard, ça aura bien changé. Et le Seigneur lui a lavé les pieds. Et là, le Seigneur donc s'adresse à nous avec des choses aussi simples. Regardez les oiseaux du ciel, regardez les lys des champs. Voilà ce qu'il nous donne à considérer. Et alors, comment, à travers cela, allons-nous considérer, nous, les grandes choses, alors, les choses du ciel, les choses qui tiennent au royaume de Dieu, les choses que Dieu a préparées d'avance, les choses qui sont dans l'invisible? Il faut que nous regardions les petits oiseaux, que nous considérions le mot de Jésus, c'est celui-là, considérer le lys des champs. Jésus nous a dit cela. Pourquoi ? Oh, parce que, vous savez, il nous connaît bien. Je ne dis pas qu'il connaissait bien l'homme seulement au moment où il était sur la terre. Mais aujourd'hui, il nous connaît bien. Nous qui sommes ici, ou nos frères et nos sœurs qui sont assemblés ailleurs. Il les connaît tous. Il nous connaît tous. Il sait quel est le fond de notre cœur. Il sait quel est le mouvement de nos pensées. Il sait à quoi vont généralement nos pensées. Tout cela, il le sait, il le suit. Vous savez, à un certain moment, les apôtres s'étaient éloignés du maître, étaient allés à bonne distance pour pouvoir un peu parler entre eux. Il y a des choses qu'on ne peut pas toujours dire devant le maître. Alors, qu'est-ce qui va être le plus grand? Qui va être le plus grand dans le royaume des cieux? Qui? C'est toi, Jacques? C'est toi, Pierre? Je ne sais pas si à ce moment-là, ils avaient déjà entrevu la papauté, plus ou moins. Qui va être le plus grand? Et il voyait peut-être déjà des ministres, ministres des finances ou autres. Et il se rapproche du Seigneur et le Seigneur va leur demander « Que disiez-vous entre vous ?» Pas question d'ouvrir la bouche, il reste muet. « Que disiez-vous tout à l'heure là-bas au loin entre vous ?» Alors, moi je vais vous dire, celui qui veut être le plus grand, qu'il soit le serviteur de tous, le plus petit. Le Seigneur savait, le Seigneur avait suivi leur petit colloque là-bas. Et ce n'est pas la seule occasion. Et actuellement, il nous suit, mes amis, il nous voit, il est ici. Nos cœurs sont pleins de respect, d'amour à son endroit. Mais lui, il sonde nos pensées, nos cœurs. Et alors il nous a parlé ainsi. Et vous savez que sa parole est éternelle, c'est pas une parole qui passe. Aujourd'hui, les petits oiseaux, le lys, c'est pour nous. C'est pour nous. Eh bien, il nous a parlé ainsi parce que il appelle notre regard. C'est-à-dire nos pensées, il les appelle ailleurs. Il appelle nos pensées ailleurs que là où elles vont. Voulez-vous vous examiner un peu vous-même, réfléchir, pas pour de grandes peut-être et profondes réflexions, simplement des réflexions sages, honnêtes, et dire, voyons, je suis chrétien, je suis enfant de Dieu, c'est vrai. À quoi vont mes pensées? Qu'est-ce que je pense? À quoi je m'affectionne? À quoi est-ce que je m'affectionne généralement dans mes pensées? Bien sûr, j'ai un tas d'occupations qui me requièrent. Mais en dehors de ces occupations, à quoi vont mes pensées? Est-ce qu'elles vont uniquement au royaume de Dieu, chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données? Est-ce que je pense au royaume? Est-ce que j'ai des éléments pour chercher le royaume de Dieu? Il faut d'abord penser au royaume de Dieu. Il faut y croire, il faut l'attendre, mais il faut le chercher. Il y a quelque chose à chercher, à rechercher. Et c'est par ma pensée, c'est par mon cœur que je vais pouvoir rechercher le royaume de Dieu. Et pour nous amener à cette recherche, le Seigneur nous parle des petits oiseaux et de l'herbe des champs. Les oiseaux du ciel, nous dit le Seigneur, vivent sans inquiétude. Le lys des champs, les humbles petites fleurs que l'on trouve dans des champs, petites fleurs pour lesquelles nous avons quelquefois un regard passager qui ne s'arrête même pas. Notre pensée quelquefois ne s'arrête pas. Si nous voyons un parterre, tiens c'est joli, tiens, c'est bien, c'est joli, on aime bien la nature, oui, mais c'est tout. On ne fait pas ce que le Seigneur nous dit de considérer, les considérer. Et déjà là, nous ne sommes plus avec le Seigneur, nous ne sommes plus dans la pensée du Seigneur. Si nous regardons les petites choses, les petites fleurettes, les petites taches blanches, roses, bleues, qui sont dans l'herbe, nous les regardons passagèrement, nous ne les regardons même pas, ou nous laissons un enfant faire un petit bouquet. Nous ne sommes plus alors avec le Seigneur qui nous demande de considérer ces choses, ces oiseaux, ces fleurs. Elles ont grandi, nous dit le Seigneur. Elles ont cru, elles ont grandi, elles ont suivi un processus de croissance. Vous savez, le Seigneur, il en savait quelque chose. Il en savait quelque chose. Chers amis, avez-vous réfléchi que le plus grand savant de la terre, c'était lui? On parle quelquefois de tel physicien, de tel médecin, prix Nobel, magnifique tout ça, et des publications, des livres dans lesquels il y a l'athéisme, Et ce sont les auteurs de ces choses que nous considérons, nous, peut-être sur la terre, comme des valeurs scientifiques, des génies. Un seul homme vraiment scientifique apparu, c'est Jésus. On ne pense pas que c'est le plus grand scientifique. Pourquoi? Mais parce que c'est en lui, c'est par lui, et c'est pour lui, que tout a été créé. Que tout a été créé. Lui, lui, pour lui, en lui, et par lui. Il est, il a été, il est. Je dis il a été parce que je pense à la création faite. Mais il est le Créateur, notre Créateur. Dieu le Père a conçu le dessein de la création et c'est par sa parole, celui qui est la parole du Père, qui a créé toute chose. Et s'il a créé, il a créé notre organisme. Il a créé tout ce qui est, comme dit le psaume 39, merveilleux en nous. Peut-être qu'un de ces soirs, nous allons faire une petite allusion, si vous voulez, une petite allusion scientifique au mystère, mystère de la vie. Mais vous pensez que ce mystère de la vie, Jésus n'a pas attendu pour créer le monde qu'il y ait des biologistes et des physiologistes, des grands savants, comme nous disons, les grands savants d'aujourd'hui, avec leurs laboratoires et leurs travaux, il n'a pas attendu cela pour savoir, lui, comment il allait faire des êtres vivants. Et il les a faits. Il les a créés. Alors, on peut tout de même penser que le Seigneur Jésus est le plus grand des hommes de science. Et je le regarde dans son humanité autant que dans sa divinité. Bien sûr, c'est par sa divinité qu'il a été le Créateur. Mais dans son humanité, soyez persuadés qu'il n'avait pas du tout perdu ce qui était de la toute connaissance, c'est-à-dire de la toute science de Dieu. Alors, il nous convie à regarder les oiseaux et les petites fleurs qui ont commencé à croître, où donc? Dans la volonté de Dieu, dans la pensée de Dieu. Nous aussi, nous avons commencé à croître dans la pensée de Dieu. Dans la pensée de Dieu, nous avons été pensés dès avant le commencement de la création, dès avant la fondation de ce monde. Nous avons même été élus à ce moment-là, dès avant la fondation du monde. La parole de Dieu nous dit, le Saint-Livre prononce, elle dit, et la chose se fait. Voilà, c'est simple comme ça, elle dit, et la chose se fait dans le psaume 33, versets 6 à 9. Et c'est sur ses œuvres, mais surtout sur sa parole que Dieu veut attirer notre attention, notre réflexion plutôt attentive, afin que la foi de nos cœurs soit nourris. Comment, chers amis, pourrions-nous dire que nous avons une foi qui honore Dieu, une foi qui est capable de grandes choses, car la puissance de la foi est immense, immense. On peut déplacer une montagne, on peut déplacer un arbre, l'obliger à se planter, il vous obéirait, dit le Seigneur. Si vous disiez à ce sycomore d'aller se planter là où jamais arbre n'a poussé sur le littoral de la mer, il vous obéirait. La puissance de la foi. Quelqu'un a dit que la puissance de la foi était la plus grande puissance qui puisse exister dans le monde. Alors comment notre foi pourrait-elle grandir en puissance? Et il le faut, cela. Il ne faut pas qu'elle reste ce qu'elle est aujourd'hui, il faut qu'elle grandisse. tous les textes nous montrent que la foi doit grandir. Alors, comment grandirait-elle si nous ne méditions pas, si nous n'obéissions pas au Seigneur pour considérer des petites choses? Tout à l'heure, le frère qui est venu nous a parlé de l'intervention providentielle, disons, de Dieu dans les petites choses. Mais c'est vrai, je l'ai constaté, nous, moi aussi, bien des fois, pour des choses même encore plus petites que son taxi, peut-être. Eh bien, oui, c'est vrai que le Seigneur vient, intervient dans les petites choses, mais le Seigneur veut que nous puissions disposer d'une foi en plein devenir, en pleine croissance, qui puisse disposer de la puissance attachée à la foi. La Bible nous dit que la foi a de la puissance. Elle a la puissance de saisir la vérité qu'il y a dans la parole de Dieu pour en faire un fait actuel. Saisir la puissance qui est dans la parole de Dieu pour que maintenant la parole de Dieu soit opérante. Prendre la puissance, par exemple, des promesses de guérison pour qu'un malade soit immédiatement guéri. Ça, c'est la puissance de la foi. Or, chers amis, nous sommes dans un temps où l'Église manque de cette puissance. Moi, j'ai connu un temps où la puissance de la foi a été bien plus grande qu'elle ne l'est maintenant, et même à ma disposition, à ma propre disposition. Je ne dis pas que j'ai maintenant, par la foi, les mêmes possibilités que j'ai connues fut un temps. Mais nous avons traversé un temps dit de réveil. Et chers amis, c'était fantastique ce que la foi peut faire. Mais la foi, vous savez, dans un temps de réveil comme ça, elle est soutenue par l'Esprit de Dieu. Elle est là, elle est soutenue par l'Esprit de Dieu. Et c'est extraordinaire si je vous racontais toutes les choses qui se sont faites. Je ne veux pas dire que j'ai faites, parce que ce n'est pas moi qui les ai faites. C'est l'Esprit qui les a faites. Mais dans les moments où nous avons voulu qu'elles se fassent parce que nous avions la foi qui voulait ça. Et nous pouvions dire à quelqu'un, nous pouvions dire, je l'ai dit, à quelqu'un, la semaine prochaine, tout ce que vous redoutez maintenant, tout ce qui vous fait pleurer, tout aura disparu la semaine prochaine. Et la semaine suivante, tout avait disparu. J'ai vu un jour une jeune femme en pleurs. Elle pleurait. Ah, je dis, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Ah, elle me dit, je suis bacillaire, tuberculeuse, bacillaire. Et on m'a pris mes 3 enfants. On me les a pris, on me les a arrachés. Je ne peux pas supporter ça, je vais mourir. Je dis à cette femme, et ce n'est pas, j'assure, moi qui en ai décidé. Oh, surtout pas. Oh, pas moi qui ai décidé de parler, de dire ça. C'est moi qui ai parlé, mais pas moi qui ai décidé de parler. J'ai dit à cette femme, spontanément, la semaine prochaine, vos 3 enfants vous seront rendus. La semaine suivante, un coup de fil d'une sœur qui la connaissait, et qui me dit, vous savez, cette personne, elle a passé de nouveaux examens, chose surprenante, extraordinaire, elle n'est plus tuberculeuse, elle n'a plus rien, et on lui a rendu ses 3 enfants. Certes, la chose, je la voulais, mais je n'ai pas dit ça parce que moi, je la voulais. J'ai dit ça parce que le Saint-Esprit me l'a fait dire. J'ai dit un jour à un mourant, qui était lucide et auquel on avait parlé du Seigneur avec quelques jeunes dans un hôpital. Je lui ai dit, va en paix, tes péchés te sont remis. Cet homme est mort dans la soirée, il est parti, il était parti sauvé. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Et j'ai compris toute la force de cette parole du Seigneur à ce moment-là. Mais attention, il ne faut pas que ce soit l'homme qui en décide. Il faut que ce soit vraiment une parole prophétique. Et les paroles prophétiques, nous devrions en avoir. L'apôtre Paul nous dit qu'il faudrait que le don de prophétie soit en honneur, en faveur, au milieu de vous. Surtout le don de prophétie. Il voudrait que tout le monde ait le don de prophétie. Pourquoi faire pour le dimanche chacun donner sa petite prophétie? Non. Il voudrait que nous ayons tous, c'est ce qu'exprimait l'apôtre Paul, la possibilité de parler avec l'esprit de prophétie, avec prophétie, de parler et de dire, non pas parce que sentimentalement nous désirons une chose, non, mais parce que le Saint-Esprit nous montrerait que cette chose, Dieu la décide, Dieu va la faire, et nous aurions, nous, à l'annoncer. Chers amis, voilà ce que la puissance de la foi pourrait donner. Et si nous portons une réflexion attentive à la parole de Dieu, alors, chers amis, que va-t-il se passer? Eh bien, notre vie présente est déjà basée sur un changement. Notre cœur a été changé, mais notre vie changerait encore. Ça irait plus loin. Ça irait beaucoup plus loin. Notre vie changerait. Si nous voulions attentivement considérer la parole de Christ, la parole de Dieu, et nous nourrir de cette parole, comme d'une manne qui est là chaque jour, à notre disposition. Lorsque nous feuilletons la Bible, nous voyons des choses comme par exemple celle-ci que je vais rapidement rappeler, Job. Sois attentif à ces choses. Considère encore les merveilles de Dieu. Considère. Vous voyez la valeur de ce terme. Considère. Et dans la langue originale, l'hébreu, ce mot est encore plus fort. Considère les merveilles de Dieu. Attache-toi à les regarder avec désir de comprendre. Le Seigneur Jésus disait à ses apôtres, et il nous le dit à nous ce soir, comprenez donc, êtes-vous encore sans intelligence, mais comprenez donc. Le Seigneur voulait que nous pénétrions, que nous comprenions, non pas avec l'intellect seulement. L'intellect doit être, lui, mobilisé au service de la foi, mais que nous comprenions avec notre foi. Il y a au service en nous, au service de notre foi, il y a des choses, chers amis, que ne connaissent pas les hommes et que nous pourrions, nous, malheureusement, méconnaître et laisser de côté. Au service de notre foi, il y a bien plus qu'il n'y a dans le cerveau d'un homme très doué, et qui fait de hautes études, de possibilités, justement, pour comprendre des mathématiques, pour comprendre des sciences, comprendre un tas de choses très difficiles. Il y a bien plus que cela au service de notre foi. Considérez attentivement vos voies, dit aussi l'Écriture. Vous semez beaucoup, et vous recueillez peu. Pourquoi cela? Vous semez beaucoup et vous recueillez peu, c'est dans le prophète Agée. Pourquoi semez-vous beaucoup et recueillez-vous peu? C'est anormal, ça. considère la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté, cela est dans Romains 11, verset 22. Considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi. Considérez celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. Je l'ai dit déjà, il y a un processus de lassitude qui intervient dans le cours de la vie chrétienne et dont il faut se méfier. Une lassitude. Alors, il faut secouer cela. C'est pour ça que l'apôtre Paul le dit, notamment dans les Romains, à des gens qui pourtant étaient, dont la foi était réputée. Il leur dit, c'est l'heure de vous réveiller maintenant. Ce n'est pas l'heure de dormir, c'est l'heure de vous réveiller. Secouez-vous, chers amis, il faut que nous nous secouions. Il faut que nous soyons vraiment en alerte. Non seulement parce que le Seigneur revient bientôt, mais parce que nous avons besoin de faire de grands progrès. Notre foi a besoin de grandir, a besoin de faire des grands progrès. Considérez comment croissent les lys, nous dit le Seigneur Jésus. Et comment croissent-ils? Est-ce que vous le savez? Avez-vous fait quelques petites observations sur non seulement les lys, mais des fleurs comme ces lys dans les champs, des fleurs des champs, les marguerites par exemple? Avez-vous considéré comment elles croissent? Eh bien, oui, elles croissent graduellement. Graduellement. On pourrait, avec un dispositif de cinématographique approprié, prendre une vue de temps en temps et pour faire un film qui nous montrerait alors là une croissance visible, n'est-ce pas? Voyez-vous, on prendrait une vue par exemple toutes les 2 heures ou toutes les 3 heures, hein, et puis on en ferait un film, alors on verrait la plante grandir, mais elle grandit graduellement et sans relâche, sans relâche. Et est-ce que nous n'aurions pas des leçons à prendre des petites marguerites ou des lys des champs ou des coquelicots? Graduellement, mais sans relâche. Dieu voudrait que notre âme croisse ainsi. Considérez les lys. Dieu voudrait que Jésus voudrait que notre âme croisse comme ces lys graduellement, mais sans relâche, dans la vie de résurrection où il nous a introduits, dans la vie de résurrection. Et alors les lys, si on les considère, les lys ou les autres petites plantes, eh bien, elles ont 2 directions. Elles ont 2 milieux. Elles ont la terre, où elles enfoncent leurs racines et où elles puisent les éléments minéraux qui vont leur être indispensables et qui vont monter en sève brute jusque dans les feuilles, à travers la tige, pour ensuite, par le miracle de la photosynthèse, grâce à la chlorophylle, c'est un miracle de tous les instants. Cette sève va devenir une sève vivante qui va nourrir la plante, parce que la plante ne peut pas être nourrie par la terre. Elle ne peut pas. Elle a besoin de puiser dans la terre, mais ce n'est pas la terre qui va la nourrir avec ses éléments tels qu'elle a. Du phosphore, de l'azote, de la potasse, ce qu'on trouve dans les engrais, non. C'est nécessaire, mais c'est pas ça qui va la nourrir. Alors ces éléments-là vont aller dans la feuille, et là, la lumière agit sur les feuilles, dans lesquelles il y a cette chlorophylle. Vous avez entendu parler de ça. vous utilisez peut-être des dentifrices à la chlorophylle, sans savoir ce que c'est que cette chlorophylle si merveilleuse. Elle fait un miracle permanent dans les feuilles, et la sève vivante, c'est ça qui nourrit la plante. Mes chers amis, si nous faisions un parallèle, vous voyez le parallèle, comment il se fait avec nous? Nous aussi, nous sommes sur la terre, nous aussi, nous avons besoin des choses de la terre, mais ça nourrit notre corps, ça. Mais le Seigneur nous dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le pain de la terre, il lui est nécessaire, certes, mais il ne vivra pas de pain seulement. Il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il lui faut le ciel, il lui faut la lumière de Dieu. Marchez à ma lumière. Celui qui ne marche pas à la lumière se trouve dans les ténèbres. Il reste là dans les ténèbres, hors du domaine de la vie. Le domaine de la vie ne se situe pas dans les ténèbres. L'héritage qui nous est réservé dans les cieux, il est dans la lumière, il n'est pas dans les ténèbres. Parce que Dieu n'a pas de ténèbres en lui-même. Dieu est lumière, et lumière. Et les plantes, donc, se nourrissent, elles, parce qu'elles puisent dans la terre, certes, mais parce qu'elles ont la tête au soleil, et que le soleil opère continuellement en faveur de leur vie ce miracle de la photosynthèse. Oh, les scientifiques ont appelé ça photosynthèse, vous savez, puis ils se regorgent d'avoir trouvé des beaux termes, ils en trouvent encore bien d'autres plus complexes que ça. Ils font souvent de la science de cette manière-là, vous savez, avec une belle terminologie qui ne résout rien du tout. Mais le Seigneur, lui, il a tout résolu. On peut dire que la terre nourrit nos corps, mais c'est elle, la terre, qui les ensevelit aussi. C'est elle qui... Tu retourneras à la poussière de la terre dont tu as... où tu as été pris, dont tu as été fait. Tu retourneras à cette... C'est un verdict de Dieu. Notre corps va retourner à la terre. Ce corps ne va pas hériter le royaume de Dieu. La chair et le sang n'hériteront pas le royaume de Dieu, parce que l'incorruptibilité ne peut pas hériter la corruption ne peut pas hériter l'incorruptibilité. Les lys nous engagent donc à regarder vers le ciel. Notre âme n'est-elle pas trop volontiers disposée à planter plus profondément ses racines dans le monde, dans la terre? Pourtant, le livre nous dit « Ne vous affectionnez pas aux choses qui sont sur la terre. Affectionnez-vous aux choses qui sont dans le ciel. » Nous avons peut-être tendance à trop nous attacher à cette existence terrestre, à lui donner trop d'importance alors que nous sommes voyageurs et étrangers sur la terre et que notre patrie n'est pas là. Et qu'il faut que nous vivions là où est notre cœur, dans les cieux. Considérez comment croissent les lys. Leur vie, leur croissance a un secret, un mystère. Et ce mystère, ce secret, chers amis, si nous n'avons pas considéré ces petites fleurettes, nous n'avons pas considéré le mystère de la vie. C'est par là que le Seigneur Jésus veut que nous considérions le mystère de la vie. Le mystère de la vie, c'est le mystère de la puissance de la vie. La vie est une puissance, un souffle de Dieu. Si Dieu retirait son souffle, dit le psaume, tout rentrerait dans le néant. S'il retirait son souffle. La vie, c'est quelque chose que Dieu entretient par sa parole puissante, lui qui soutient toute chose. Par sa parole puissante, il soutient notre vie. Il soutient la vie des plantes, la vie des animaux. et le mystère de la croissance, de notre croissance à nous. Qu'est-il ce mystère? C'est une puissance de vie, nous avons dit. Oui, le mystère de Christ, qu'est-il? Christ en vous, l'espérance de la gloire. Voilà le cœur du mystère de Christ, du mystère de la vie. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et pour que Christ, le Fils de Dieu, soit en nous, il a fallu la croix. Il a fallu la crucifixion. Il a fallu la mort expiatoire du Seigneur, du Fils de Dieu, et il faut notre union avec lui par la foi. Et la puissance de la foi va s'employer énormément et avant toute chose à nous lier avec le Seigneur Jésus. C'est la foi qui nous lie. Vous direz, mais l'amour n'est-il pas lui-même un lien? Oui, mais l'amour est un produit de la foi. Car nous n'aurions pas d'amour, de véritable amour, n'aurions que l'amour, le malheureux amour humain, mais nous n'aurions pas l'amour divin, l'amour de l'Esprit, l'amour parfait, si l'Esprit de Dieu n'en remplissait notre cœur. Et il remplit notre cœur en raison de la foi. Il vous sera fait dans la mesure de votre foi. Celui qui revêt l'herbe des champs d'une gloire supérieure aux vêtements rutilants qu'avait le roi Salomon, entend nous revêtir, nous, de la robe des rachetés, robe de justice, et il le fera selon sa parole si nous lui donnons libre accès dans notre cœur, si nous le laissons nous purifier, nous affranchir du péché. On a parlé de Suède et des églises de Suède, et on va nous montrer, je crois, des vues. Le frère Balverde nous a annoncé qu'il nous montrerait des vues sur les églises de Suède, qui sont extraordinaires, évidemment. Mais je me rappelle ce pasteur suédois, là, je ne sais plus son nom. Comment? Non, pas Falk. Non, pas Falk. Non, un pasteur suédois qui est mort maintenant. Falk n'est pas mort. Oui, c'est ça, voilà. Eh bien, je me rappelle ce qu'il dit en commençant une étude sur la discipline dans l'Église. Il dit, Dieu n'aime pas le péché, Dieu ne veut pas le péché, et toute l'œuvre de Dieu est là pour supprimer, détruire le péché, ôter le péché. On ne se rappelle pas cela, et il faut pourtant se le rappeler. Ôter le péché, Dieu ne veut pas le péché, c'est vrai. Dieu veut nous purifier, Dieu veut nous affranchir du péché, le Seigneur Jésus l'a dit. Alors, si nous le laissons faire, et si nous gardons son amour en nous par la foi, alors il va nous sanctifier et nous faire gravir une élévation de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Considérez les lys, regardez les oiseaux du ciel, ne valez-vous pas beaucoup plus que ces petits oiseaux? Ainsi Jésus, par ces choses simples, nous arrache au repliement sur nous-mêmes, le repliement sur nous-mêmes dans la vie chrétienne, comme c'est une chose détestable avec cette lassitude qui nous menace. Attention aux choses qui menacent la vie chrétienne. Le repliement sur soi. On s'occupe beaucoup trop de soi. On se dit, on est chrétien, bon, c'est fait. Nous sommes baptisés. Baptisés dans l'eau, baptisés dans le Saint-Esprit, c'est fait. Nous avons une bonne église. Nous sommes heureux. Tout va bien. Non. Tout ne va pas bien si ton cœur n'est pas le siège d'une ferveur constante, le siège de pensées qui t'élèvent constamment vers Dieu, qui te font chercher le royaume de Dieu et sa justice. Tout n'est pas bien s'il n'y a pas cela. C'est ça la vie chrétienne. Et dans le cours de notre retraite ici, il faut que ces choses soient dites. Ainsi, Jésus nous arrache à ce terrible danger du repliement sur nous-mêmes. Et il appelle notre regard vers lui, le roi du royaume de Dieu. Et plusieurs textes dans la deuxième épître de Pierre, dans les Éphésiens, dans les Colossiens, plusieurs textes du Nouveau Testament nous invitent à croître, nous dit. Considérez comment croissent les lys et vous-même croissez dans la connaissance de Jésus-Christ. Dans la connaissance, c'est-à-dire dans une union intime et vivante avec le Seigneur Jésus. Pour que, comme disait ce matin notre frère, sa vie coule en nous, véritablement. Voilà, chers amis, des choses, vous voyez, qui ont été exprimées avec les moyens les plus simples. Moi, je suis confondu de voir que le Seigneur a pris les petits oiseaux et puis les lys des gens pour nous parler de ces grandes questions, de ces grands mystères, nous parler de nous, de notre salut, de notre entrée future mais dans le royaume de Dieu, mais déjà maintenant, de la possession dans laquelle nous devons être, des réalités spirituelles du royaume de Dieu. Vous voulez bien, chers frères et sœurs, que nous pensions à tout cela dans le cours de cette retraite, et que nous prenions l'habitude de penser à tout cela, de penser au royaume de Dieu et à sa justice. Le Seigneur Jésus est venu sur la terre parce qu'il a aimé la justice. Et vous savez quels sont les deux grands termes qui définissent le Fils de Dieu. Deux grands termes. Justice, roi de justice et roi de paix. Paix et justice. Ce sont les deux grands termes qui définissent le Seigneur Jésus lui-même et lui-même dans son œuvre. Paix et justice. Alors, chers amis, pensons à ces choses. Soyons vigilants, soyons préoccupés de lui. En étant préoccupés de lui, nous ne serons pas préoccupés de nous et nous avancerons. Et lui nous fera croître et grandir de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Amen. Amen.